Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous m'écoutez en podcast, je vous propose une émission entièrement consacrée au podcast, la balado-diffusion, comme on dit au Canada. Tout à l'heure, je recevrai en studio Claire Azan. Elle est à la tête des studios Spotify en France. Avec elle, on fera le point sur les ambitions de la plateforme de streaming en matière de contenus éditoriaux. Mais avant cela, je vais d'abord discuter avec la responsable d'une plateforme de recommandation de podcast, puis avec une podcasteuse de talent qui organise un challenge, le One Minute Podcast. Bonjour Mathilde Mélin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste responsable éditoriale de Slate Audio. Slate Audio, c'est une plateforme de recommandation de podcast qui a été lancée mi-mars par Slate.fr, version française du site américain du même nom. Pour commencer, vous êtes une boulimique de podcast. Vous tenez d'ailleurs, je crois, une liste très précise de tout ce que vous écoutez dans un petit carnet. D'où est-ce que cela vous vient ? Est-ce que c'est vos parents qui écoutaient beaucoup de radio ?
Pas du tout, je viens pas d'une famille qui consomme beaucoup les médias en général, donc c'est un peu mystérieux que je sois devenue journaliste. Non, je pense que c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie d'adulte en fait. J'ai découvert les podcasts avant de commencer à écouter beaucoup de radio, donc j'ai fait le chemin inverse de pas mal de gens. Et ça s'est fait en fait un peu par hasard, j'ai découvert l'application podcast sur mon iPhone qui était préinstallée. Et une fois que j'ai mis le doigt dedans, c'était fichu et j'ai commencé à en écouter de plus en plus et aujourd'hui c'est mon métier d'écouter des podcasts et j'en écoute entre 50 et 105 heures par mois.
Alors je le disais, Slate a lancé Slate Audio et derrière Slate Audio, il y a une double volonté. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Le double projet de Slate, c'est à la fois de proposer un endroit où pour les auditeurs, il va être facile de trouver un podcast à écouter et un podcast qui leur plaît, qui correspond au thème ou au format qu'ils aiment. Je pourrais vous expliquer un petit peu plus en détail si vous voulez ce qu'on a mis en place pour les guider vers un podcast qui leur plaira. Et aussi un enjeu pour les producteurs de podcast. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le podcast, que ce soit des médias, des boîtes de prod ou des indépendants. Et en fait, dans toute cette offre-là, c'est très difficile pour les producteurs de se faire repérer et de se faire écouter par les gens. Donc moi, je fais ce travail-là de curation, de sélection, d'aller écouter un peu tout partout et de sélectionner le meilleur.
Donc c'est une sélection qui est manuelle, qui n'est pas algorithmique. Comment on choisit justement ? Quelle est votre grille de sélection ? Parce que c'est forcément subjectif.
Bien sûr, c'est forcément subjectif. Après, moi, c'est mon métier. Ça fait plus de 2 ans que je critique des podcasts. Il m'est arrivé de faire des critiques très positives sur des podcasts qui, moi, personnellement, ne m'avaient pas énormément plu, mais où je reconnaissais la qualité du travail qui était fourni. Donc, j'essaye de rester non pas objective, mais la plus ouverte possible à des formats qui peuvent plaire à des gens différents de moi. Et ensuite, mes critères, en fait, ils sont multiples. Le premier, c'est un critère de production. Je cherche des podcasts qui ont une production professionnelle avec un son à peu près propre, avec un montage à peu près propre, tout simplement pour que ce soit agréable à écouter pour les auditeurs qui ont certains standards d'écoute puisqu'on a tous été bercés notamment par la radio. Ensuite, il y a aussi un standard de qualité de ce qui est raconté dans le podcast. J'aime bien aller chercher des sujets un peu différents, des angles un peu différents, des choses qu'on n'entendrait pas forcément sur des radios classiques ou bien dont on n'a jamais entendu parler ou pas sous cet angle-là. J'aime bien les choses qui surprennent un peu. Après, c'est aussi au coup de cœur, à ce qu'on m'envoie, à ce que j'écoute. J'essaye d'offrir une sélection la plus large possible en restant dans des critères de qualité. Et puis, il y a toujours le fameux critère principal de si j'ai adoré et que mon premier réflexe a été de l'envoyer à quelqu'un de mon entourage, c'est que ça va plaire à d'autres gens et j'ai envie que d'autres gens puissent l'envoyer à des gens de leur entourage.
L'idée aussi de Slate Audio, c'est de créer des playlists d'écoute de podcasts et vous faites, je crois, appel à des personnalités qui ont ou qui vont créer leurs playlists de podcasts.
Oui, on a 2 types de playlists pour l'instant. Un premier type de playlist thématique que je fais moi. En fait, l'avantage, c'est que pratiquement tous les épisodes qui sont sur Slate Audio, je les ai écoutés. Donc, je les ai bien en tête. Donc, je fais des playlists thématiques. Par exemple, on en a une sur les hommes dans la gastronomie. On en a une sur la vie après le Covid-19, avec des épisodes issus de podcasts différents sur lesquels les gens n'auraient pas forcément cliqué puisque le thème du podcast ou la description du podcast ne leur dit rien, mais cet épisode-là, dans le cadre de la playlist, va leur plaire. Et on a aussi des playlists faites par des personnalités. Pour l'instant, on a eu Élise Costa, qui est chroniqueuse judiciaire pour Slate Audio et qui a un podcast pour Arte Radio. Redouane Tella, qui est aussi podcasteur et rédacteur en chef de l'Instant M sur France Inter. Et depuis aujourd'hui, Zazie Tavitian, qui est chroniqueuse culinaire sur France Inter également et qui est podcasteuse. Le but, c'est aussi de dire que nous, on n'a pas une connaissance hégémonique du podcast. Notre avis, ou mon avis en tout cas, n'est pas le seul. Et que d'autres auditeurs de podcasts ou producteurs de podcasts sont tout à fait légitimes à recommander les podcasts qu'ils aiment. Le podcast, c'est un truc très incarné, et dans les podcasts eux-mêmes, et dans ce qu'on consomme, en fait. Ce qu'on écoute souvent, c'est ce que nos amis nous ont recommandé. Et en fait, j'avais envie de faire des playlists faites par d'autres que moi, et qui soient incarnées par des gens, parce que je voulais leur donner cette opportunité de recommander les podcasts qu'ils aiment à un cercle un peu plus large que juste leurs amis. Et j'espère que ça plaira. Enfin, moi, je trouve ça assez chouette.
Alors, la limite de l'exercice d'une plateforme de sélection de podcasts, c'est qu'on n'y reste pas forcément pour les écouter. Comment composez-vous avec ça ?
C'est OK. Nous, on a fait le choix de donner la possibilité de les écouter tout en étant conscient que pour une partie des gens, ils allaient simplement venir chercher des idées et les écouter ailleurs. Le but est de faire découvrir des podcasts et de créer des écoutes aussi pour les podcasteurs. Donc que ce soit chez nous ou ailleurs, tant mieux pour eux, le but est rempli.
Dernière question, vous évoquiez tout à l'heure l'idée de rémunérer les créateurs et pour ça, eh bien, vous avez fait un partenariat avec la SCAM.
On a signé un accord avec la SCAM, comme d'autres producteurs et diffuseurs de podcasts. La SCAM, c'est une société de droit d'auteur qui rémunère les auteurs de documentaires pour la diffusion de leurs œuvres. On est très content d'avoir cet accord, puisqu'on est la première plateforme de diffusion de podcasts gratuite qui reverse des droits de diffusion aux auteurs de documentaires. C'est très important, je pense, pour les auteurs. Aujourd'hui, le podcast ne rapporte pas beaucoup d'argent, malheureusement. Donc, s'ils peuvent percevoir des droits de diffusion, c'est super pour eux. Et on est en discussion également via le PIA, le syndicat des producteurs indépendants, pour trouver des accords similaires avec la SACEM et la SACD, pour les auteurs de fiction et pour la musique. On espère que ça aboutira et que d'autres plateformes seront inspirées par ça pour reverser des droits de diffusion aux auteurs.
Merci Mathilde Mélin.
Merci.
Et pour découvrir les podcasts que vous sélectionnez avec passion, une seule adresse, slate.fr/audio. À bientôt.
À bientôt.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne sur laquelle je parle de podcasts. Je vous donne des conseils pour des podcasts à écouter et je vous donne des conseils pour faire des podcasts puisque c'est mon métier depuis quelques années maintenant.
Maintenant, j'ai le plaisir d'être en duplex avec une podcasteuse. Elle s'appelle Samia Basil, mais elle est plus connue sous le nom de Samia Miskina. Bonjour Samia.
Bonjour.
Vous faites des podcasts depuis plusieurs années avec une approche documentaire. Vous les produisez, parfois en indépendante. Vous avez aussi été produite par Slate, notamment pour Force du Désordre, mais aussi par Spotify, c'était Sex Club. Et ce que je trouve génial avec vous, c'est votre démarche pédagogique. Vous apprenez plein de trucs et vous voulez les transmettre, notamment via votre chaîne YouTube qui est entièrement dédiée au podcast. Première question, certains diraient que vous allez donner des ailes à ceux qui veulent faire comme vous et donc qui vont vous piquer votre boulot, mais c'est pas du tout votre raisonnement.
Oui, effectivement, je pense que ça serait dommage de garder jalousement mes connaissances. En plus, je considère que j'apprends toujours plein de choses dans le podcast parce que finalement, j'ai commencé il y a quelques années, mais c'est quand même assez récent. Et du coup, je sais que moi, j'aurais beaucoup bénéficié de conseils, d'aides sous forme de vidéos, d'articles, etc. Et donc, c'est pour ça que ça me paraît important de partager ce que je connais.
Et vous donnez aussi des formations au podcast.
Exactement. Donc, je travaille avec un organisme de formation. Donc là, c'est beaucoup plus formel, bien sûr, que ce que je fais sur YouTube ou sur d'autres supports. Et là, l'idée, c'est vraiment des formations à l'écriture, des formations d'une journée. Il y a parfois un peu de technique aussi, mais sinon, souvent, c'est pris en charge par quelqu'un d'autre. Et voilà, donc j'aide vraiment à concevoir le podcast, à l'écrire avec pas mal de techniques en storytelling notamment.
Dernièrement, vous avez lancé un challenge appelé One Minute Podcast. Quelle est l'idée ? Est-ce que c'est d'identifier des nouveaux talents ou juste de se faire plaisir ?
Alors, c'est d'abord de se faire plaisir. Et d'ailleurs, je vais être franche tout de suite, c'était pas mon idée à la base. En fait, je me suis inspirée d'un projet très très similaire aux États-Unis, mais donc qui est uniquement en anglais. Donc, ça me paraissait important de le proposer aussi en français. Donc, aux États-Unis, ça s'appelle Audio Playground, et c'est une femme réalisatrice de podcast qui a lancé ça. Et donc, moi, le One Minute Podcast, c'est à peu près la même idée avec quelques petits changements. Mais l'idée, c'est de proposer des challenges donc toutes les semaines. Toutes les semaines, on reçoit un défi directement dans sa boîte mail, si on s'abonne à la newsletter, bien sûr. Et puis, on a une semaine pour répondre à la consigne, pour relever le défi. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux débutants et débutantes de se lancer, parce que parfois, on n'a pas forcément envie de commencer par un documentaire d'une demi-heure. On a besoin de petits challenges comme ça pour commencer. Et puis, ça permet aussi aux plus aguerris de développer leur créativité, de tester des nouvelles choses, parce qu'on n'a pas forcément cette liberté-là dans tous nos projets de podcast.
Et on gagne quoi ?
Alors, on gagne absolument rien parce que, justement, l'idée, c'est que c'est sans sélection. Donc, je publie absolument tout ce que je reçois, sans discrimination. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a le droit de rater des choses. On n'est pas obligé de faire des choses exceptionnelles. C'est vraiment pas l'idée, même si on a le droit de faire des choses exceptionnelles. Et j'entends vraiment des objets sonores, en fait, incroyables. Mais on gagne rien, si ce n'est... on est simplement content d'avoir relevé le défi, d'avoir proposé quelque chose et de voir sa création en ligne.
Alors, justement, quels ont été les derniers challenges, leurs objets ?
Alors, par exemple, il y a eu « Vous habitez sur Mars » et en fait, il faut aller faire écouter une scène de son anniversaire. Donc, il fallait complètement imaginer une scène de son anniversaire. Donc là, c'était plutôt de la fiction. Parfois, c'est plus du documentaire ou de l'interview, en tout cas du réel. Par exemple, le challenge de cette semaine, au moment où on enregistre, c'est de tendre le micro à quelqu'un et de demander à ce que cette personne nous raconte une histoire. Et ensuite, il faut faire un montage de 3 minutes maximum. Donc là, on est beaucoup plus dans le réel.
Merci beaucoup, Samia Miskina.
Merci beaucoup.
Et à bientôt dans l'Atelier des médias.
À bientôt.
Cette semaine, en studio, dans l'Atelier des médias, je reçois Claire Azan. Bonjour.
Bonjour, Steven.
Vous êtes à la tête des studios Spotify pour la France et le Benelux depuis mars 2020. Si je dis que vous êtes directrice de tout ce qui a trait au podcast en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, sur la plateforme suédoise de streaming, j'ai bon ?
Oui, c'est exactement ça. Et ça recouvre à la fois nos activités en tant que diffuseurs, c'est-à-dire de permettre à tous les gens qui font du podcast, que ce soit des indépendants, des radios, des studios, de diffuser leur contenu chez nous et de trouver de nouvelles audiences, que notre activité de créateur de contenu, qui est ce que vous évoquiez avec Samia, de trouver des talents, des journalistes, des auteurs pour créer des nouveaux podcasts.
Alors en France, les radios enregistrent une perte d'audience historique. C'était le titre d'un article publié jeudi par Le Monde. 2 millions d'auditeurs en moins en un an, c'est vertigineux, c'est du jamais vu. En cause, la pandémie de Covid-19 et les changements dans les habitudes des auditeurs, notamment la route du matin, le trajet du matin qui a changé avec le recours massif au télétravail. En profitez-vous chez Spotify ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ?
Alors, ça peut pas être une bonne nouvelle, mais je suis pas sûre que ce soit une mauvaise nouvelle dans l'absolu. C'est-à-dire que nous, on croit à l'audio comme une activité à part entière. Et l'audio, ça peut être du live, ça peut être du replay radio, ça peut être du podcast natif, ça peut être plein de choses. Demain, ça sera encore fait de nouvelles choses. Et tout ce qui contribue, et donc Spotify probablement en fait partie, à faire grossir cette activité audio, ne peut que bénéficier aux autres acteurs. Et en fait, nous, on voit ça comme des usages complémentaires. Et d'ailleurs, on travaille avec les radios pour leur permettre, grâce à l'exposition de leur leur contenu sur notre plateforme, de toucher des audiences plus jeunes, de toucher des audiences peut-être différentes de celles qu'elles touchent avec le live. Et c'est vraiment un travail qui est complémentaire. Et c'est des usages complémentaires aussi dans la journée d'un auditeur potentiel.
Alors, j'ai quelques chiffres sur Spotify pour essayer de resituer. Arrêtez-moi si mes chiffres ne sont pas à jour. Spotify revendique plus de 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
Oui, 345 millions.
Et pas loin de 150 millions d'abonnés payants dans le monde.
Exactement.
Il y a derrière Spotify un savoir-faire humain, éditorial et algorithmique, développé depuis des années maintenant. Dans votre catalogue, il y a des dizaines de millions de titres de musique, plus de 60 millions je crois, et 1 million de podcasts.
2 millions.
Et
c'est parce qu'il y a tellement de nouveaux podcasts chaque jour, il y a une effervescence créative qui est dingue, et donc ouais, 2 millions dans le monde.
Une idée de la part de podcasts francophones dans tout cela ?
Je ne saurais pas vous donner les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est croissante. Ne serait-ce que dans le monde, il y a 25% des utilisateurs de Spotify qui écoutent du podcast. Et entre 2019 et 2020, nous, on a vu que le nombre d'auditeurs de podcast et le temps d'écoute même des podcasts avait été doublé. Donc ça montre vraiment qu'il y a non seulement plus de gens qui écoutent du podcast, mais en plus des gens qui reviennent et qui en écoutent plus longtemps.
Et puis avec des enjeux derrière de découvrabilité et de sélection parmi toute cette foultitude de podcasts. Un dernier chiffre pour terminer, c'est Médiamétrie qui disait que 26% des internautes français écoutent des contenus audio en rattrapage ou en podcast natif chaque mois. Parlons des podcasts de Spotify et des podcasts. D'abord, Spotify distribue des podcasts, donc en utilisant les flux RSS. Ça représente quoi de votre catalogue, ça, en gros ?
C'est
l'immense majorité.
Oui, c'est l'immense majorité de notre catalogue parce que tout simplement la première, on va dire mission, en tout cas la première chose qu'on veut proposer aux utilisateurs de Spotify, c'est de pouvoir trouver sur Spotify l'intégralité des podcasts disponibles qui viennent encore une fois de radio, de studios, d'indépendants. Et ça, c'est vraiment notre, on va dire la brique de base de notre offre. Et ensuite, par-dessus ça, on veut développer des projets originaux qui, en gros, sont des raisons pour les utilisateurs d'avoir envie de venir chez Spotify plutôt qu'ailleurs.
Et là, Spotify France, c'est une vingtaine de titres, une vingtaine de podcasts originaux pour l'instant ?
Oui, en 2020, c'est ça, c'est entre 15 et 20 projets originaux. On a deux façons de fonctionner. On fait des exclusivités et ce qu'on appelle des originals. Donc des exclusivités, c'est un modèle peut-être comme vous avez pu voir aux États-Unis, c'est-à-dire Joe Rogan, c'est un podcast qui existe déjà et qui vient en diffusion exclusive sur la plateforme, mais qui reste un podcast le podcast de Joe Rogan. Nous, on l'a fait par exemple en France avec Louis Média. On avait travaillé sur la saison 2 de Entre qu'on a proposé en exclusivité. On le refait là avec Binge, un programme qui s'appelle On est chez nous, emmené par Sophie-Marie Laroui. Donc ça, ce sont les exclusivités. Et puis, il y a les originals qui sont vraiment des créations ad hoc où on travaille de plein de façons différentes. Ça peut être en direct avec des auteurs et des autrices comme Samia Basile que vous aviez tout à l'heure. Ça peut être avec des studios. On a travaillé avec Paradiso, avec Louis Média, avec Nouvelles Écoutes, avec Bababam, ou ça peut être des coproductions ou des partenariats avec des médias. Là, on vient de lancer, par exemple, le podcast quotidien du Monde en exclusivité sur Spotify.
Justement, alors Spotify a lancé le 30 mars en France Mon Daily. C'est une playlist personnalisée qui mêle podcasts d'actualité et musique, donc en se basant sur les habitudes de consommation de musique de l'utilisateur. Vous disiez vous être associé avec Le Monde pour lancer l'heure du Monde. Il y a également d'autres partenaires, l'AFP notamment avec Sur le Fil, ou encore Brut. Est-ce que c'est un virage ou est-ce que c'est juste un prolongement de ce que vous faites déjà sur les podcasts ?
C'est un prolongement et ça correspond à quelque chose dans lequel on croit dur comme fer, qui est ce qui aide le podcast à se développer. C'est une combinaison de deux choses. C'est les meilleurs contenus possibles et ça, on ne peut pas transiger là-dessus. C'est la base et sans ça, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'on s'est associé aussi à des médias référents et qu'on continuera de le faire. Et une deuxième chose, c'est l'expérience d'écoute. C'est-à-dire que vous pouvez proposer les meilleurs contenus qui soient. S'ils ne sont pas accessibles facilement, ça ne va pas fonctionner. Et sur le podcast, vous le disiez, il y a cette question de comment on les découvre. Il y a une sorte de mini barrière à l'entrée. Parfois, il faut expliquer où est-ce que tu peux trouver tes podcasts, etc. Et donc, Mon Daily, c'est au croisement de ces deux choses-là, c'est-à-dire des contenus qu'on veut de la plus grande qualité possible, comme les podcasts qu'on a proposés avec l'AFP et Le Monde, et une expérience d'écoute qui est facilitée. Donc, Mon Daily, nous, on voit ça comme un moment d'écoute que vous pouvez déclencher à différents moments de la journée. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Et l'idée, c'est de permettre aux gens à la fois de s'informer et de se divertir en un seul moment d'écoute. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire nous, on croit à l'audio. L'audio, c'est de la musique, c'est du podcast, ça peut être du livre audio, c'est plein de choses. Et donc, c'est naturel de les proposer au sein de ce même moment d'écoute.
Et vous qualifiez ça de playlist qui est éditoriale, algorithmique, qu'est-ce que c'est comme playlist ? Parce que est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à la main pour créer ce flux à deux moments de la journée ou comment ça se passe ?
La première chose, c'est que c'est une playlist personnalisée. Donc, mon daily n'est pas le même que celui de mon voisin. Et donc, ça fonctionne de deux façons. Une façon qui est en effet algorithmique sur la musique, qui va aller chercher les titres basés sur vos habitudes d'écoute, vous en faire découvrir de nouveau à partir de ça. Et la partie podcast, elle est manuelle, c'est une sélection éditoriale. Elle va tendre, c'est déjà le cas dans les pays où elle a été lancée à l'étranger, vers un peu plus de personnalisation. Mais pour l'instant, c'est une sélection manuelle aussi pour garder cette meilleure expérience d'écoute et avoir une vision d'ensemble sur ce qu'on propose au sein de la playlist.
Pourquoi être allé voir ces trois médias-là et pas des médias qui sont sur l'audio de base comme des radios ?
Il y a des radios dans mon daily. Il y a deux podcasts de Radio France, de France Info et Tube & Co de Rebecca Manzoni. Et c'est une programmation qui va évoluer. Mon daily, c'est comme une playlist. Il faut y voir ça comme la construction d'une grille des programmes, finalement. Donc là, le lancement s'est fait avec ses partenaires parce qu'on discutait avec eux en amont de ces projets, en dehors de mon daily. Mais la programmation, vous allez la voir évoluer là au fil des mois. Et l'idée, ça sera toujours de trouver les meilleurs contenus pour cette expérience-là.
Quelques semaines après le lancement, est-ce que vous avez déjà quelques premiers retours chiffrés, notamment en matière d'usage ?
On est très content des retours. La meilleure façon de le voir, c'est de regarder les top podcasts sur l'application, où on voit que les podcasts qui sont inclus dans la playlist sont tout de suite montés dans le top 5, top 3, top 5 de Spotify. Et donc, c'est à ça qu'on voit que cette playlist est également un énorme levier de découverte de podcasts, parce que vous êtes dans une écoute qui est un peu plus passive, on va dire, mais c'est un choix que fait l'utilisateur à ce moment-là, et ça lui permet d'arriver sur des podcasts qu'on lui fait découvrir.
Quelle est la différence entre mon daily et une radio ? C'est du flux, en fait, vous recréez du flux.
Alors, mon daily, c'est pas du live, déjà. Et la radio, une des forces de la radio, c'est du live. Et ensuite, il y a une question aussi de moment d'écoute. C'est-à-dire que mon daily, ça peut être quelque chose que vous lancez à différents moments de la journée et surtout qui va être personnalisé. Donc, ça correspond vraiment à deux usages différents.
Il y a de plus en plus de plateformes qui se mettent au son, qui se mettent au podcast. Qu'est-ce qui doit faire la spécificité d'un podcast Spotify Originals, par exemple ?
En fait, c'est la diversité chez Spotify des modèles. C'est-à-dire que nous, on a une équipe de producteurs, productrices. Ce qui nous anime au quotidien, parce qu'on est une plateforme, justement, c'est de travailler avec une diversité de modèles et une diversité de créateurs. Donc, peut-être, si je reprends le modèle de Slate, où il y a vraiment une patte et une volonté de creuser un chemin qui est le leur, nous, on a en tête une diversité et une équité de façon de travailler. Donc, dans les productions qu'on fait, comme je disais tout à l'heure, on va aussi bien travailler avec des indépendants qu'avec des studios, qu'avec des médias, et on va faire attention à cette diversité-là. Et ensuite, ça va être aussi dans le choix des sujets. On peut aller sur des sujets, par exemple, très engagés, des sujets de société. On l'a fait avec Filles de lutte, qui était un podcast d'interview des filles et petites filles de féministes. On l'a fait avec Coming Out. Mais à chaque fois, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher les auditeurs au plus large possible avec ces sujets-là et profiter de la puissance de notre plateforme pour porter ces sujets auprès de nouveaux auditeurs.
Avant de poursuivre cette discussion, je vous propose qu'on écoute ensemble Mondoblog Audio, qui donne chaque semaine à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Il va être question de podcast, là encore, avec le béninois Fumilayo Asanvi. Fumi fait du podcast, et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec le principe, il a écrit une liste des raisons pour lesquelles vous devriez vous y mettre là tout de suite.
J'adore écouter des podcasts. Pour moi, le podcast est tout simplement un ami qui vous veut du bien.
Enchanté.
Le podcast, c'est un blog en format audio. On peut les écouter en ligne ou les télécharger quand on veut. Voici quelques bonnes raisons pour écouter d'urgence des podcasts. D'abord, le podcast, c'est bon pour la santé. Eh oui, il n'y a pas que les écrans dans la vie. La lecture d'articles sur un blog, le visionnage de vidéos ou les échanges sur les réseaux sociaux augmentent le temps passé sur nos écrans. Et cela est mauvais pour notre santé. L'avantage des podcasts, c'est qu'ils peuvent être écoutés partout, à tout moment et surtout en faisant autre chose. À la différence des autres médias, quand on écoute un podcast, on peut être actif. Et ça change tout. Un téléphone, des écouteurs, c'est tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, le podcast vous fait faire des économies. Le coût des données mobiles de connexion étant de plus en plus élevé, la possibilité de s'instruire ou de se distraire via Internet est de plus en plus restreinte. Comparativement aux autres contenus sur Internet, le podcast économise vos données mobiles. Il est donc moins cher à consommer. Regardez un tuto de 3 minutes sur YouTube vous fait consommer plus de data qu'écouter un podcast de la même durée. Alors, voilà la solution. Podcast. Aussi, écouter un podcast vous permettra d'optimiser votre concentration. De plus en plus d'internautes se plaignent de la longueur des articles ou des vidéos. En fait, on est très vite déconcentré. Mais avec le podcast, c'est très différent. On reste attentif. On apprend à mieux écouter. Et pour terminer, sachez qu'il existe une multitude de podcasts à la variété de contenus infinis. Information ou divertissement, il existe forcément un podcast pour vous. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à écouter ou à télécharger vos premiers podcasts?
Mondoblog.org.
C'était Fumilayo Asanvi, mondoblogueur béninois, qui nous donnait quelques bonnes raisons de nous mettre d'urgence tous au podcast. Je suis avec Claire Azan de Spotify. Claire, Spotify était disponible depuis 2018 en Afrique du Sud, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Égypte. C'était tout en matière de pays africains. Mais depuis fin février 2021, le service est maintenant accessible dans 40 autres pays africains. Le Bénin, donc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria. Il manque encore quelques pays comme les deux Congo. Vous, qui êtes en charge des studios Spotify en France, j'imagine que vous regardez ce qui se passe et ce que l'on peut faire du côté de la francophonie, non ? Je me trompe ?
Bien sûr, on regarde, mais il y a plusieurs étapes dans cette démarche, et ça représente bien la démarche de Spotify, qui est une entreprise européenne, mais qui est implantée localement. La première, c'est de rendre le service déjà disponible dans ces pays-là. C'est ce qui s'est passé récemment. On a annoncé 80 nouveaux pays pour que les podcasts soient disponibles et écoutables. La deuxième, c'est de permettre aux créateurs locaux d'uploader leurs podcasts sur la plateforme et donc de les rendre eux aussi disponibles dans leur pays, mais potentiellement à l'inverse aussi, à d'autres auditeurs dans d'autres pays. Et la troisième, c'est de avoir une production locale. Et la façon dont opère Spotify, et c'est pour ça que moi je suis là et qu'il y a mes homologues dans les autres pays, c'est vraiment de monter des équipes de production locale, parce qu'on croit que le podcast, c'est une culture locale, c'est pas quelque chose qui s'adapte, qui se traduit, c'est d'avoir des équipes de producteurs dans les pays qui vont aller chercher les talents locaux et les aider à émerger et les aider à produire leur podcast.
Donc ce sera envisageable demain d'avoir des studios de Spotify au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria?
J'ai pas les infos précises là, mais si je suis en effet la façon dont Spotify s'est développé dans les pays, oui, c'est ça la logique.
Pour terminer, est-ce qu'il y a des grandes tendances du podcast que vous avez identifiées là et sur lesquelles on pourrait se projeter pour les années qui viennent, justement ? Il y a eu la grande vague des podcasts féministes, par exemple, en France, enfin aux États-Unis puis en France, portée notamment par la vague MeToo. Quelles seront les prochaines vagues ?
Alors, sur les podcasts féministes, je dirais pas tant que c'est une vague, mais c'est plus que le succès et ce que les gens viennent chercher dans le podcast, c'est aussi d'entendre des voix et des sujets qui ont pas été traités suffisamment sur d'autres médias plus traditionnels. Et donc, si on parle vraiment de tendance, je pense qu'il faut moins réfléchir en termes de sujets que vraiment d'usage, etc. Sur les sujets, par exemple, nous, on a vu un énorme boom dans les podcasts enfants, dans les podcasts bien-être, ça c'est vraiment pour les thématiques. Et si on parle d'usage, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le live. Spotify a annoncé il y a peu le rachat d'une application qui s'appelle Locker Room aux États-Unis qui fait du live. Voilà, mais en fait, ça évolue tout le temps. Et c'est ça qui est excitant, je pense, pour les gens qui sont dans le milieu du podcast et pour les gens qui en écoutent, c'est que les usages et les contenus se renouvellent tout le temps.
Merci beaucoup Claire Azan d'être venue dans l'atelier des médias.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes directrice des studios Spotify pour la France et le Benelux. C'est la fin de cette émission. Merci à Simon Decreuse qui, comme chaque semaine, en a assuré la réalisation. Merci aussi à Camille Deloche qui a piloté Mondoblog Audio. Vous pouvez réécouter cette émission en version longue sur atelier.rfi.fr et sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Castbox, Podcast Addict, TuneIn, Apple Podcast ou Spotify, bien sûr. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous la note maximale sur ces applications et postez des commentaires, cela nous permettra d'être visible et donc encore plus écouté. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr, je vous répondrai. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.